Vous écoutez France Musique.
À la semaine prochaine, Françoise de Georges.
Chemin rêvant, Olivier Naoum.
Bienvenue dans Chemin rêvant qui s'ouvre ce soir aux côtés de Gilbert Borde. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre pour ce partage à la lumière des étoiles. Vous signez aux éditions XO un violon sur la mer et votre vie se nourrit de passions qui se rencontrent. L'affection pour la mer.
Sûrement, oui. Et pour le violon.
Et pour le violon que vous enfantez, puisque vous êtes aussi luthier.
Absolument. Je suis écrivain le matin et luthier l'après-midi.
Dans Un violon sur la mer, vous allez nous conter le destin de Yann, ce fils de médecin qui va connaître la vie maritime dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'il s'agit de trouver, de découvrir, d'attraper la morue, sauf qu'évidemment, on ne la fait pas sous le climat tropical.
Yann, par dépit amoureux, d'abord parce qu'il a rencontré Francesca et le matin de leur nuit d'amour, la première et la seule, Francesca est partie avec sa famille, qui sont des immigrés italiens. En lui laissant, on engage un violon, un magnifique violon, bien sûr. Et Yann, étant un peu violoniste, comprend tout de suite la valeur de cet instrument qui est un gage d'amour. Et Yann s'est embrouillé avec sa famille, va partir. Où le conduit son instinct, c'est-à-dire vers l'océan. Et là, il va s'embarquer sur un bateau, un de ces bateaux mythiques dont on ne connaît plus maintenant le chemin et la destination, un morutier, un de ces bateaux qui allait vers Terre-Neuve pêcher la morue pendant plusieurs mois dans des eaux glacées et des conditions terribles.
Alors, dans Un violon sur la mer, Gilbert Borde, avant d'entrer de plein pied dans l'histoire, vous nous donnez à voir les plans de la Reine Marie. Donc, on a le bateau sous les yeux et on découvre tout un vocabulaire. Grand voile, grand flèche, artimon, voile de cap, flèche d'artimon.
Oui.
Et on se dit que cette famille de mots, ça a dû vous plaire parce que vous,
bien
le
sûr,
luthier aussi, vous composez avec des mots
bien
dont
sûr
seuls les violonistes ou les autres instrumentistes comprennent le sens.
Certains, oui. Mais au niveau du bateau, il faut bien savoir que ces trois mâts étaient des cathédrales flottantes, des bateaux en chêne, lourds, avec des voiles. Et ça, on oublie souvent de le dire, c'est que la moindre voile pèse facilement une tonne et qu'elle était soulevée, bien sûr, à force d'hommes. On montait dans la voilure et on montait sur les mâts pour décrocher les voiles, les faire descendre. Ensuite, il fallait les remonter, les accrocher. Ce n'était pas un métier facile et ce n'était pas une façon. C'était un bateau très difficile à manœuvrer. Et il y avait toujours 30 ou 40 hommes qui travaillaient là-dessus. Ils étaient complètement isolés du monde, puisqu'ils partaient des côtes bretonnes et normandes, surtout de Fécamp, qui était le plus grand port morutier de la Manche. Ils partaient et ils étaient là, enfermés sur ce bateau, pendant plusieurs mois. Il y avait donc des amitiés, bien sûr, de grandes amitiés, mais il y avait aussi des haines très fortes. Mais rien ne se disait sur le bateau, rien ne se réglait sur le bateau, car la survie était tellement importante. Quand la mer est en colère, il faut tous les bras, toutes les forces et il faut s'unir. Ses comptes se réglaient à terre quand on rentrait.
Avant de raconter des histoires nées de votre imagination, vous avez eu d'autres vies professionnelles. Mais est-ce que déjà, quand vous étiez instituteur, au fond de vous, vous aviez le sentiment qu'un jour, De toute façon, vous deviendriez homme à la croisée des chemins entre musique et
écriture. Je n'étais pas instituteur, comme on pourrait le dire, par vocation ou autre. J'étais très mauvais dans le métier que je faisais. Je le faisais simplement parce que j'avais besoin, tout simplement, de faire bouillir la marmite. Mais je crois que la rencontre du violon, je devais avoir... 11 ans ou quelque chose comme ça, 11-12 ans, il n'a jamais quitté ma vie, et l'écriture de la même manière. J'ai toujours été luthier, c'est-à-dire que j'ai commencé à construire des violons sans savoir comment il fallait faire, donc je faisais ça un peu n'importe comment, jusqu'au jour où j'ai rencontré un luthier pour lui montrer, et je lui ai montré un de mes violons maladroits, bien sûr, et il a dit « voilà mon apprenti ». Et c'est de là que j'ai commencé à apprendre sérieusement la lutherie. Et pour l'écriture, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas vraiment d'école. On est obligé de se débrouiller seul. On apprend jusqu'au jour où on peut publier enfin un premier roman. Mais pour publier ce premier roman, il faut que un éditeur ou un spécialiste, quelqu'un qui connaît bien la manière de faire un roman, vous prenne en charge et vous explique un petit peu le béaba de la profession.
Mais vous avez dit à l'instant, un jour... Je me suis mis à construire mon premier violon, mais c'est une démarche, si j'ose dire, qui n'est pas innocente. Alors comment elle démarre l'histoire ?
Je peux vous la raconter, l'histoire.
Bah oui, allons-y.
Oui, complètement. Je suis né dans un milieu où la musique n'avait pas beaucoup sa place, et pourtant la musique me fascinait. Donc chaque fois que je pouvais en entendre, j'allais écouter de la musique. Et lorsque je suis arrivé en sixième, après des tas de vicissitudes, parce que j'étais un élève un petit peu pas très discipliné, en sixième, un jour, en cours, je m'en rappelle comme si c'était hier, en cours de maths, eh bien, tout d'un coup, j'ai entendu de la musique. Un son très particulier, très curieux, mais qui m'a fasciné. Aussitôt, sans demander la permission à personne, je suis sorti de la classe. Alors, c'était un couloir, et dans ce couloir, les classes étaient vitrées. Il y avait des vitres qui permettaient de voir à l'intérieur des classes. Et donc, je suis sorti, j'ai marché dans le couloir pour aller voir cet instrument. La prof, qui était aussi prof de maths, mais qui enseignait la musique, m'a vu, elle a vu probablement ma curiosité, elle m'a fait rentrer, elle m'a montré ce qu'était un violon. Eh bien, depuis ce jour, le violon ne m'a jamais quitté. J'ai su ce jour-là que je construirais un jour des violons.
Thank you.
Via Lobos avec cette fugue conversa des Baquianas Brasileiras numéro 1 dans cette version du Rondo Violoncello, 15 violoncelles sous la direction de Peter Buck. Ce n'est pas pour vous déplaire, on l'espère.
Non, au contraire, c'est merveilleux. Board. C'est merveilleux.
Ces violoncelles qui sont réunies, qui donnent de l'ampleur, suggèrent l'image de la mer qui
bien
est
sûr,
au cœur d'un
sûr.
Violon sur la mer, la démesure.
Mer, l'océan, la démesure, les vagues, le vent. Et cet inconnu que les marins devaient toujours affronter lorsqu'ils partaient vers l'ouest, vers le large.
D'ailleurs, on trouve ces mouvements de violoncelles réunis, évoqués, en tout cas inspirés par certains moments de votre livre. Par exemple, en page 107, quand vous écrivez, Gilbert Borde, « Les voiles se déployèrent, les marins répétaient les ordres, les poulies grinçaient, les cordages se tendaient. Pour manœuvrer correctement le bateau à la sortie, il fallait limiter sa vitesse. Le courant de la marée l'éloignait lentement du quai, où les silhouettes qui agitaient les bras furent rapidement effacées par la nuit. » Et à lire ces quelques lignes, on se dit que c'est comme en musique. Un navire, il y a un chef d'orchestre et plusieurs musiciens.
Bien sûr, c'est la même chose. C'est la même chose et tout le monde doit exécuter sa partition au bon moment, sans contretemps, sinon ça peut tout mettre par terre. Et ces marins qui partaient aussi, partaient, dernier adieu à une femme, à des enfants. Et puis, c'était l'inconnu. Ils ne savaient pas s'ils allaient revenir, puisque très souvent, eh bien, des bateaux partaient, se perdaient. On ne les revoyait jamais.
Quand on fabrique un violoncelle, vous me disiez, en préparant l'émission, qu'on sait dès la première note du violon ou du violoncelle...
De tous les instruments à cordes.
De tous ces instruments à cordes,
oui.
On sait dès
oui.
la première note s'ils
oui.
seront ou non.
Oui, oui. Même s'ils ne sont pas bien réglés, tout de suite... un violon donne un son que l'on entend et tout de suite on comprend si ce son est ample, s'il y a... Parce que vous savez, le réglage de l'âme, bon, ça fait plein de choses. Ce sont vraiment des réglages souvent extrêmement minutieux, juste un petit tapotage de l'âme pour la déplacer d'un dixième de millimètre. Ça peut changer beaucoup de choses sur le timbre des basses ou autre. Mais le violon, un bon violon, dit tout de suite... s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Premier cri, on l'entend. Mais aussi, on entend un violon médiocre de la même manière. Alors, un violon médiocre, s'il est très bien réglé et un peu moins médiocre, il peut être passable. Mais il ne sera jamais. Il ne faut pas croire qu'avec un réglage de l'âme et un réglage de l'instrument très précis, on fera un bon violon d'un instrument qui est déjà médiocre.
Alors, le violon révèle ou pas dès le départ, ses capacités à incarner ou pas la perfection, en tout cas à s'en rapprocher, c'est dire que le luthier n'a pas une totale maîtrise et c'est peut-être la différence avec votre vie d'écrivain parce qu'on a le sentiment qu'un roman, même si le premier
Je
mot...
Je ne suis pas sûr.
Alors le premier mot aussi qui s'impose à vous, vous prépare à la suite.
Je pense que le premier mot, je pense que la première phrase, c'est très important de trouver la première phrase parce que c'est souvent la locomotive et vous allez prendre le train, vous n'avez presque besoin que de la suivre. Sauf que les personnages tout au long du roman prennent vie, prennent forme et de temps en temps, ils n'obéissent pas vraiment à celui qui les a inventés et il faut... parler avec eux, il faut essayer de tempérer un petit peu, soit leur ardeur, mais il faut les comprendre et on ne fait pas toujours ce qu'on avait prévu.
Mais Yann, il existait depuis longtemps dans votre inconscient, Yann qui est au cœur d'un violon
Peut-être
sur la mer.
Peut-être existait-il depuis longtemps, puisque la mer m'a toujours fasciné, même si je ne suis pas un marin. Hein, je ne dois pas me parer de ce que je n'ai pas. Je ne suis pas capable de traverser l'Atlantique sur un voilier. Mais j'ai toujours aimé la mer, toujours aimé sa démesure, cette force extraordinaire et surtout cette audace des hommes qui osent l'affronter, qui osent aller au-devant des tempêtes et qui veulent la vaincre. Ça m'a toujours beaucoup passionné.
Alors, quels sont les sentiments que vous inspire Gilbert Borde, ces notes, dans la version de Christian Tetzlaff, qui nous régale de cette andante de la sonate numéro 2 en la mineure de Bach pour violon seul, avec ce que vous disiez en l'écoutant, c'est qu'on croit que c'est facile, mais ce n'est pas du tout.
C'est terriblement compliqué. Mais d'ailleurs, toutes les sonates et partitas aussi pour violon seul sont extrêmement difficiles à jouer et à interpréter. Le niveau technique est très élevé. Et en plus, il faut faire de la musique. Il ne faut pas seulement se contenter de mettre des notes les unes à la suite des autres. Il faut faire de la musique. Et c'est très difficile.
Mais dans le livre, vous insistez sur la dernière note de cette andante. Vous dites... Et on ne révélera pas qui la joue à la fin du livre. Un violon.
J'avais déjà oublié.
Mais oui, on ne dira pas. On ne va pas casser l'intrigue. Oui, mais en tout cas, vous insistez sur cette dernière note qu'il faut savoir laisser filer.
Bien, c'est probablement une des difficultés du violon, laisser filer les dernières notes. Le violon est un instrument le violon, le violoncelle ou l'alto, d'ailleurs, ils sont tous un peu pareils. Ce sont des instruments qui prennent au cœur, des instruments qui sont pleins de comment dire, d'émotions et qui poussent les musiciens toujours à aller un petit peu plus loin. Mais il faut savoir revenir vers le silence, revenir vers l'apaisement à la fin. Et c'est sûrement très difficile.
Mais est-ce que cette sonate que l'on vient d'entendre, elle fait partie des morceaux d'initiation pour vous ? Parce que l'écriture a été une voie que vous avez épousée peu à peu, le violon et puis la lutherie aussi. Et est-ce qu'il y a eu des morceaux qui sont en quelque sorte des morceaux passeurs ?
Oh là là, oui, sûrement.
Parce que vous nous avez dit, j'ai grandi dans une famille où la musique n'était pas présente.
La musique n'était pas présente. Donc, je suis très inculte au niveau de la musique. Et ce que j'ai pu apprendre, ça a été d'une manière sauvage, en allant d'un compositeur à un autre, en choisissant ce qui me plaît ou ce qui ne me plaisait pas. Et parfois, en passant à côté d'œuvres très importantes et très solides, mais je n'avais pas pris le temps de les écouter correctement. Donc, je suis allé de la musique facile vers des musiques qui sont un peu moins faciles, mais je suis toujours resté vers des musiques qui me parlent au cœur. Je ne suis pas assez initié en musique, bien sûr, mais même je ne suis probablement pas assez intelligent pour comprendre les musiques difficiles. J'aime les choses qui me parlent. Toute œuvre d'art, pour moi, parle directement au cœur et il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études ou en tout cas d'être un grand spécialiste pour recevoir une œuvre d'art. Un tableau, c'est la même chose. On le regarde, il vous parle ou il ne vous parle pas. S'il faut 100 pages pour comprendre que c'est beau, moi, ça ne m'intéresse plus beaucoup.
Dans Un violon sur la mer, il y a un thème qui est au cœur du livre, c'est la transmission, puisque Yann va apprendre ce métier de marin et Yann va même... permettre à Loïc, un de ses compagnons d'aventure, de savoir lire. Donc on se dit que la transmission est un thème qui vous est cher, Gilbert Borde. Et vous, la transmission, dans l'art de la lutherie, elle est passée d'abord par une rencontre, ce luthier. Mais ce luthier, il n'a pas eu le temps de tout vous apprendre, c'est cela ?
Il m'a appris quand même l'essentiel, mais au niveau de certains réglages fins, de certaines choses, disons que je n'avais peut-être pas été assez bon élève pour les comprendre sur le coup. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que cette transmission, c'est d'abord pousser quelqu'un vers quelque chose, vers l'amour de quelque chose. Vous apprenez à construire un violon, finalement, ce sont des morceaux de bois que l'on colle ensemble et ça doit faire un violon. Mais c'est une fois ces techniques de base acquises et que l'on vous donne, après tout doit être un cheminement intérieur, doit être un peu comme Yann, une quête, une recherche. Lui, il va devenir marin, il va apprendre la mer, il va devenir un hauturier, un Terre-Neuve, et parce que, tout doucement, ce métier lui est rentré dedans, en lui. Eh bien, je crois qu'au niveau de la lutherie, c'est exactement la même chose. C'est en pratiquant qu'on a envie toujours d'aller plus loin, et on se rend compte aussi que plus on avance, eh bien, plus on a encore à découvrir.
Mais dans ce monde de la lutherie, vous avez rencontré des personnages hauts en couleur, comme ce premier initiateur.
Absolument, mais sans lui, c'est même pas la peine d'essayer. On ne peut pas apprendre tout seul.
Qui avait une forte personnalité.
Ah ben énorme.
Qui buvait.
Oui, qui buvait, oui, beaucoup, oui. Qui en est mort d'ailleurs.
Mais est-ce que ces personnages rencontrés dans le monde de la musique, vous pensez qu'ils ont aussi été source d'inspiration pour vos livres de fiction ?
Ah sûrement, je crois, j'ai... que ce soit dans mes livres ou que ce soit d'ailleurs dans la construction des violons, je pense que nous sommes tous en chemin et nous marchons pas à pas dans notre chemin, dans ce qui est notre direction, et que ce soit pour écrire des romans, on avance, on invente de nouveaux sujets, de nouveaux moyens d'écrire, et en lutherie, on invente aussi parfois des nouvelles techniques auxquelles on n'avait pas pensé jusque-là, et c'est une initiation perpétuelle pour essayer d'aller vers quoi ? Sûrement pas vers la perfection, elle est à mon sens, totalement impossible. Stradivarius lui-même, à qui on disait « vous construisez des violons parfaits », disait « non, c'est pas vrai, j'ai encore beaucoup à apprendre et chaque fois que je construis un violon, je découvre quelque chose de nouveau, mais je me rends compte qu'il m'en manque beaucoup, beaucoup à découvrir ». Eh bien, c'est la même chose. On avance dans un chemin qui est le sien et c'est du bonheur que de savoir que chaque fois qu'on a fait un petit pas en plus, on s'approche un peu de ce qui est sa musique intérieure et sa personnalité à soi.
Et il faut combien d'essais pour arriver au bon violon ?
Je crois qu'il en faut beaucoup et que peut-être on a toujours envie de faire autrement. Le violon, c'est, et peut-être aussi d'ailleurs l'écriture, on porte une musique, on porte sa musique, on porte un son, on porte le violon à soi, son violon idéal, il est dedans. Et chaque fois qu'on donne le premier coup d'archer sur un instrument tout neuf, on se dit « ça y est, peut-être ». Alors, il arrive qu'on soit très enthousiaste. « Ouais, je le tiens, c'est formidable ». Et puis, quelque temps passe, et puis le violon retourne vers ce qu'il est, c'est-à-dire un violon peut-être un peu mieux que les précédents, mais sûrement pas parfait, et qui ne m'a rapproché qu'un tout petit peu de ma musique intérieure, mais je ne l'ai pas encore atteinte. Et peut-être, d'ailleurs, il faut s'en féliciter. Si on atteignait ce que l'on peut considérer comme parfait, ou en tout cas ce que l'on cherche, il n'y aurait plus rien à faire.
Thank you.
une fantaisie chromatique, pas comme les autres, pour alto de Bach, mais qui est devenue fantaisie pour alto grâce à Kodály et cette transcription de 1951 dans la version d'Elisabeth Balmas. Et vous me disiez, Gilbert Borde, en connaisseur, que l'alto était très bon.
Ah oui, il me semble, oui. Mais il est très bien joué aussi, ça fait beaucoup. Vous savez, le musicien, le luthier construit le violon, mais c'est le musicien qui le fait. C'est le musicien qui lui donne toute sa dimension et toute son ampleur.
Sauf que l'alto, c'est un mystère.
Merveilleux.
Mais c'est un mystère quand on...
Alors, c'est un instrument très compliqué parce que l'alto a longtemps été oublié par les musiciens et donc par les luthiers. Et par les compositeurs. À l'époque de Stradivarius, on construisait tout un tas d'altos, à peu près n'importe quelle taille. Puis l'alto, il y a eu un semblant de normalisation. On a fait des altos, le petit alto, 39 cm. L'alto dit alto normal, si ce terme peut vouloir dire quelque chose, de 41 cm. Je ne sais plus quel luthier anglais a construit des altos de 42,5 cm, qui seraient d'ailleurs très bons. Il existait même autrefois des grands altos, de grands altos de 47 cm, c'est-à-dire que c'était probablement un ténor bricolé en alto. Et sur l'alto, les proportions qui existent sur le violon ne sont plus tout à fait les mêmes, et c'est parfois un instrument extrêmement compliqué et capricieux. Il arrive qu'on soit obligé, en principe, un bon violon, on met un jeu de cordes et quelle que soit la marque, en principe, ça fonctionne. Alors, on peut obtenir avec des cordes plus de brillants, moins de brillants, mais l'équilibre entre chaque corde est à peu près respecté quand l'instrument est bien réglé. Parfois, j'ai eu le cas sur un alto de 39 cm il n'y a pas très longtemps, la corde de ré, ce jour-là, elle ne voulait pas marcher, sur cet alto, elle ne marchait pas. Il a suffi de mettre une autre corde de ré d'une autre marque. Et là, elle a fonctionné très bien. Alors, ce sont parfois des mystères, alors sûrement des raisons, mais c'est un instrument assez compliqué à mettre au point. Et la corde de là, elle est facilement nasillarde. Il faut faire vraiment très attention.
Vous notez dans votre livre « Un violon sur la mer », vous parlez des liens que peut créer la musique et vous dites que la musique rapproche plus que les mots. On ne sait rien l'un de l'autre quand on se rencontre et pourtant, grâce à la musique, on peut se sentir proche comme si on l'avait toujours été. Est-ce que ça veut dire que quand vous êtes écrivain, au moment de votre journée, vous sortez presque de votre corps de luthier? Parce qu'on se dit que quand vous nous parlez de la lutherie, on a l'impression que c'est un monde sans mots, où finalement, c'est au millimètre, au micron, avec quelque chose presque de spirituel.
Je pense, oui, qu'il y a quelque chose de spirituel dans la lutherie, bien sûr. Mais dans l'écriture aussi. Pendant très longtemps, puisque la lutherie, je la pratique depuis pas loin de 40 ans, j'ai fait une différence totale entre les deux métiers et j'y faisais en sorte que lorsque j'étais dans le monde des écrivains ou le monde littéraire, je ne parlais jamais de ce hobby qui était de construire des violons. Jusqu'au jour où je me suis dit, eh bien, basta, on fait comme ça, je suis double, eh bien, je vais assumer ma dualité. Et je me suis rendu compte alors que les deux vont très bien ensemble. Alors ça, je le savais depuis longtemps. Mais les deux vont très bien ensemble. Construire un violon, finalement, ça se fait par coup de gouge, ça se fait avec un rabot, ça se fait avec des ratissoirs, ça se fait très progressivement avec des compas d'épaisseur pour arriver exactement à la bonne dimension d'un fond ou d'une table. Construire un roman, c'est un peu la même chose. Ça se fait avec des mots qu'on pourrait considérer comme les coups de rabot. Et surtout, ces mots, il faut les changer, il faut qu'ils soient bien à leur place. C'est comme si l'on construisait un objet, c'est la même chose. Sauf qu'avec la musique n'ayant pas de nationalité, la musique parlant directement au cœur de l'homme, sans passer par son intelligence, par sa compréhension, eh bien, cette musique, elle est absolument universelle. Je crois que c'est un peu le langage de l'univers. Alors que les mots, moi, mes mots de français, ne s'adressent qu'à ceux qui sont capables de les recevoir.
Vous écoutez Chemin rêvant, Olivier Nahum, sur France Musique.
Thank you.
Ce cinquième caprice de Paganini, interprété par Julia Fischer, a de nombreuses raisons qui justifient sa présence dans Chemin rêvant. D'abord, dans Un violon sur la mer, Gilbert Borde, vous racontez ce moment important du livre. Yann aime Francesca. Francesca disparaît. Elle lui laisse en cadeau, en quelque sorte, un violon. Et sur ce violon, eh bien, il expérimente un souvenir, celui de Paganini, et en particulier la montée chromatique du cinquième caprice. Et vous, vous racontez justement dans le livre cet exercice d'une grande difficulté qu'il réussissait mal avec son instrument, sonner miraculeusement avec le violon de Francesca, comme s'il avait été conçu pour jouer des morceaux réservés aux virtuoses.
Et bien sûr, puisque le violon de Francesca... Bah écoutez, puisque j'étais en train d'écrire un roman, je pouvais me faire plaisir. Et c'est un Garnerius d'Algésus, donc le frère, d'ailleurs, je crois l'avoir dit en quelque part, qu'il a été il avait été construit par Garneri en même temps que le canon, un an après. Mais c'était le violon frère du canon de Paganini. Ce sont des violons merveilleux. Le canon de Paganini, qui est à Gênes, est un violon un peu grand pour certains musiciens, mais il faut l'apprivoiser. Il est assez difficile à jouer, mais lorsqu'il est bien réchauffé, lorsqu'on l'a bien en main, c'est un instrument merveilleux, un des meilleurs violons du monde.
Mais quand vous écrivez un violon sur la mer, que vous arrivez à ce moment clé où vous devez nous conter cette sensation, celui donc de Yann qui ne va plus voir Francesca, Francesca lui laisse un violon en héritage en quelque sorte. Est-ce que vous avez beaucoup réfléchi sur la rencontre entre Yann, votre héros, et ce violon qui symbolise l'amour déchu? Est-ce que ça a été un moment particulièrement difficile? Vous avez hésité sur le morceau qu'il devait jouer pour se rendre compte?
Oui, j'ai hésité sur le morceau qu'il devait jouer parce que, bon, le cinquième caprice, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est déjà, je voulais que l'on sache que Yann était un bon violoniste et qu'il s'était attaqué un petit peu à Paganini, comme certains autres musiciens, et qu'il arrivait pas très bien à le réussir, et que c'était lié à son violon de qualité plutôt médiocre, car pour jouer Paganini, si vous ne possédez pas un très bon violon, vous passerez forcément à côté.
Alors, ce cinquième caprice, il trouve écho dans votre livre, absolument, Gilbert Borde, mais en plus, dans la vraie vie, comme diraient les enfants, il est le théâtre d'une belle histoire.
Ah ben, une histoire toute simple. Un jour, j'ai reçu un mail d'un jeune musicien de La Réunion et qui me dit être un fou de violon et qui voulait m'acheter un violon. Bon, très bien, pourquoi pas. Il me dit, j'ai pas beaucoup de sous, je pourrais vous le payer par petits bouts. Oh, j'ai dit, on s'arrangera. Et il a joué, il m'a dit, j'essaie de jouer Paganini, mais le cinquième, je le réussis pas très bien sur mon violon, qui est un violon chinois. Alors je lui ai envoyé un violon. Je lui ai envoyé un violon qui a d'ailleurs fait le voyage très très bien et qui est arrivé là-bas. Alors, il y a eu quelques petites histoires de décollement ou de décollage de la touche liée à la température très élevée et à l'humidité. Mais enfin, on s'est arrangé en communiquant par Internet. Et ensuite, avec ce violon, il a pu jouer le cinquième caprice. Alors, ce que je dois dire, c'est que ce garçon m'a certifié, tout le temps certifié, n'avoir jamais pris aucune leçon de violon. Et très franchement, c'est un virtuose, c'est un musicien extraordinaire. Vraiment quelqu'un qui m'a toujours étonné. Et voilà, certains sont doués et je suis plein d'admiration pour ce jeune homme.
Et c'est devenu un ami?
Ah oui, complètement. On communique sur Internet. Alors, je ne l'ai jamais vu, bien sûr. Il ne m'a jamais vu non plus. On ne s'est jamais téléphoné, on s'écrit, c'est tout.
Et la musique est le guide de
la relation. La musique est le lien. Mais la musique m'a valu des rencontres merveilleuses. Je pourrais en parler très longtemps.
Par exemple?
Par exemple, il n'y a pas très longtemps, Daniel Nalesso, premier violon de l'Orchestre de Paris, maintenant en retraite, et qui pratique qui a mis au point toute une technique pour permettre aux musiciens de se libérer et de pouvoir aller plus loin. Il appelle ça la sophrologie instrumentale. Parce qu'il semblerait que parfois, quand on joue du violon, si l'attitude n'est pas parfaite, on est bloqué très rapidement dans son évolution technique. Et lui, il s'est servi de son expérience d'une 30 ou 40 ans de musique et de violon à très haut niveau pour pratiquer cette chose-là. Alors, il l'a beaucoup pratiqué aux États-Unis. En France, c'est beaucoup moins développé. Mais cette rencontre m'a rempli de bonheur. D'abord, parce que quand il joue actuellement un de mes violons. Et c'est un bonheur infini. Justement, d'entendre les partitas ou les sonates pour violon seul de Bach jouées à un très, très haut niveau.
Thank you.
Un extrait à l'instant du final du concerto pour violoncelle en si mineur de Dvorak avec le Philharmonique de Vienne sous la direction d'André Prévin et le violoncelle d'Heinrich Schiff. Alors, il vous transporte tout ce final de Dvorak, Gilbert Borde?
Eh bien, c'est curieux, mais on pense toujours un petit peu à la symphonie du Nouveau Monde. Il y a une parenté là-dedans. Alors, je ne saurais pas vous dire comment, parce que je ne suis pas musicologue, mais le violoncelle vous donne envie, encore une fois, d'aller par-delà les mers, par-delà l'horizon, et d'aller voir s'il y a derrière l'horizon une île toute belle, toute propre, où l'on pourrait accoster et où peut-être les hommes sont heureux.
Alors, ce final de Dvorak, on le trouve, semble-t-il, en tout cas subjectivement, évidemment, dans Un violon sur la mer. Quand vous parlez, encore une fois, de ces hommes en action, vous écrivez, par exemple, « Les hommes pataugeaient dans l'eau gelée, la neige cinglait les visages, le froid engourdissait les mains, les mousses grimaçaient à cause des engelures et des crevasses qui saignaient sous le poids des seaux. » Oui. Mais pour raconter cette réalité des métiers de la mer, vous vous êtes documenté,
oui,
vous êtes parti à Terre-Neuve, vous étiez fasciné par Paimpol?
Non, pas du tout. Je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis finalement, voilà, je l'ai écrit, je me suis mis dans mon bureau et dans mon bureau, j'ai imaginé que j'étais sur un bateau, sur un trois-mâts, et puis j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se passait. Mais il me semble que l'imagination d'un auteur passe par des mots, mais elle suscite aussi l'imagination du lecteur. Et il se trouve que le lecteur découvre dans un roman ou dans une description de ce genre des choses que peut-être je n'avais pas pensé à y mettre.
Mais est-ce que l'écriture, surtout quand on parle d'aventuriers qui vont au bout du monde, est-ce que l'écriture, c'est une manière de soigner votre absence de voyage, puisque vous êtes quand même dans votre atelier?
Oui, l'absence de voyage complètement, vous avez complètement raison. Le luthier, c'est forcément un solitaire qui travaille dans son atelier, à l'abri des regards, parce que moi, je ne supporte pas que quelqu'un vienne me regarder travailler. C'est là qu'on fait des bêtises, qu'on donne deux ou trois coups de rabot en trop, et la pièce est perdue. Donc, dans le romancier est aussi un solitaire, mais il peut voyager dans sa tête, et ça, c'est formidable quand même.
La Fugassa sonate à 5 de Giovanni Regrenzi, 1671, interprétée par l'orchestre baroque irlandais sous la direction de Monica Huguet. Alors, Gilbert Borde, cette musique baroque italienne, c'est aussi une manière, pour conclure ce chemin rêvant, de rendre hommage à Francesca, ce personnage féminin d'un violon sur la mer, l'égérie de Yann, votre héros. Comment vous l'avez composé, ce personnage ?
Je crois qu'elle est venue toute seule et qu'elle avait surtout ce violon et que c'était une immigrée italienne.
Mais elle ne s'appelle pas Francesca par hasard.
Elle ne s'appelle pas Francesca par hasard. Francesca était la première femme d'Antonio Stradivari. Alors voilà, c'est un petit clin d'œil au grand, grand luthier de Crémone. Mais Francesca... Elle laisse ce violon et c'est finalement ce violon qui va la suivre tout au long de sa vie et qui va permettre aux deux, parce que bon, ils ont passé, on peut le dire, c'est pas déflorer le livre, de dire qu'ils ont passé une nuit ensemble. Le lendemain, Francesca est partie parce que sa famille fuit la justice de son pays. Mais les années passant, Yann va devenir un marin aguerri avec la peau tannée, un ouvrier de la mer. Francesca, elle, va retourner en Italie où elle va grimper quelques échelons sociaux et devenir une grande dame. Alors, après tout, se retrouveront-ils grâce à ce violon ?
Vous avez le sens du suspense, mais puisque vous jouez sur la corde des questionnements, cher Gilbert Borde, est-ce que c'est possible ? Parce que dans Un violon sur la mer, vous nous racontez quand même l'histoire d'un violon qui voyage beaucoup, qui va aller jusqu'à Terre-Neuve. Est-ce que oui. Vous pensez que dans la vraie vie, encore une fois, il aurait tenu le choc ?
Franchement, je n'en sais rien. Peut-être pas. L'air marin, c'est probablement pas très bon. Et j'ai l'expérience de violents partis, par exemple, à La Réunion, avec dans les bagages d'un médecin qui partait là-bas. Et le violon est revenu quelques mois plus tard, assez mal en point, parce qu'il avait souffert de l'humidité et de la chaleur. Par contre, cette même personne a remporté un autre violon qui est revenu, lui, parfaitement indemne. Alors, je ne sais pas, mais peut-être quand même que ce beau Garnerius del Gesù aurait souffert. Et d'ailleurs, je pense qu'il aurait été, ça aurait été une erreur de l'emmener comme ça sur l'océan.
Même au nom de l'amour ?
Alors, je ne sais pas, l'amour a toujours raison.
Et alors, vous rêvez tout le temps, en permanence, au violon que vous n'avez pas encore construit,
absolument,
au violoncelle que vous n'avez pas encore construit.
Ma vie est construite autour de ça. Je cherche à construire des violons toujours mieux, toujours meilleurs. Je suis tellement heureux d'entendre la musique de ces violons qui devient un peu ma musique et que je ne suis pas capable de jouer. Je suis heureux d'entendre ces violons dans les mains des musiciens. Je suis heureux aussi que mes livres puissent donner un petit peu de bonheur, un peu de rêve aux gens. C'est ça ma vie et elle continuera aussi longtemps que je pourrai.
On fabrique plus vite un violon qu'un roman ou c'est le contraire ? Qu'est-ce qui va le plus vite ? Écrire un roman ou fabriquer un violon ?
Ah, je pense quand même qu'on fabrique un violon un petit peu plus vite qu'un roman. Un roman, il faut 3-4 mois pour l'écrire. Un violon, on peut à Mirecourt, les ouvriers de Mirecourt fabriquaient 2 violons par semaine, mais c'était des artistes, ils allaient très très vite. Moi, je fabrique un instrument par mois, mais je ne cherche pas le rendement, je ne cherche pas la rentabilité. Je cherche à faire des violons qui me conviennent et qui vont convenir à ceux qui les joueront. Donc, je fabrique 10, 12 instruments par an.
Voilà, des fabrications qui se rencontrent, celle de violon, celle de livre, puisqu'on
absolument
pourra vous découvrir, Gilbert Borde, dans Un violon sur la mer aux éditions IXO. Merci d'être venu nous voir dans Chemin rêvant.
Merci de m'avoir invité.
Et nous saluons l'équipe Michel Mestre, Françoise Cordet, Anna Cassery et excellente nuit sur France Musique. Au revoir.